En passant devant l'étalage, il prend deux pommes et se sauve en courant en la prenant à la main. Ils se sont arrêtés essoufflés dans un parc désert pour manger leurs pommes. Puis, ils ont repris leur route. Elle rit de cette liberté. En passant devant un café, ils entendent de l'ordre de barbarie. Il a fait tourbillonner et danser jusqu'à épuisement. Là, ils se sont endormis enlacés sous une porte cochère. Ils ont leur corps l'un contre l'autre, sa chaleur, sa douceur. Ils sont enveloppés tous les deux dans le même blouson. Elle entend son corps battre, front contre front. Il s'endort. Elle aimerait ne plus se réveiller. Elle est réveillée par quelque chose qui la secoue et voit une tête d'un homme chauve. Debout, mademoiselle, police. Kevin se réveille lui aussi. Deux flics en uniforme leur dit: venez avec nous. Elle panique et leur demande: n'avez-vous rien fait de mal? C'est ce que nous verrons. Ils se lèvent, ils se prennent la main. Les policiers les mènent vers une voiture de police et les font entrer. Ils ont été menés au commissariat. Là, ils sont menés dans le bureau du commissaire.
Petite pièce sale, peinture jaune, table de bureau, chaise et une autre petite table avec machine à écrire. Le commissaire, un petit homme à moustache et cheveux noirs, costume le roi. Asseyez-vous. Ils vont s'asseoir.
Le commissaire lui dit: vous avez des papiers d'identité? Elle sort une carte et la lui tend. Et vous?
J'en ai pas.
Le commissaire lui dit: vous êtes un SDF? Bon, nous allons voir si vous n'êtes pas recherché par la police.
Il donne la carte à la fille, de la fille à un commissaire, et demande à Kevin:
nom, date de naissance. Kevin Leclerc, 17 ans, nationalité française sans domicile.
Bien.
Il note sur un papier ce que vient de dire Kevin et le donne
au policier.
Allez voir au central s'ils ne sont pas recherchés.
Le policier sort de la pièce.
Vous allez me dire pourquoi vous avez passé la nuit dehors.
Kevin lui dit, parce que nous sommes pauvres.
Le commissaire demande, et vous, mademoiselle?
Je suis avec lui. Mais, puisque vous avez une carte d'identité, si vous n'êtes pas pauvre, vous devez avoir une famille. Elle lui dit, je ne veux plus vivre avec ma famille, avec ma mère.
Pourquoi?
Elle ne répond pas.
Bien, je vais en voir si vous n'avez pas fait de choses illicites.
Après des recherches sur la fille, on veut la ramener chez sa mère et on veut laisser le jeune homme au poste de police. On veut garder le jeune homme au poste de police.
Je ne veux pas revenir chez ma mère. Je veux rester avec lui.
Le commissaire lui dit, vous êtes mis dehors.
Nous vous ramènerons chez votre mère.
Deux agents ramènent la fille chez sa mère. Au salon.
Nous vous la ramenons, votre fille, mais la prochaine fois, faites en sorte à ce qu'elle ne fugue pas. Vous êtes responsable de votre enfant.
Merci, monsieur le commissaire. Je vous promets que ma fille ne fuguera plus.
Et les agents les quittent. Qu'ils sont partis, la mère gifle sa fille.
T'as pris de te sauver comme ça. Il va falloir obéir maintenant et tu feras ce que je te dis. Tu suivras mes plans.
Constance lui dit,
me marier?
Oui.
Avec Galien?
Oui.
Jamais.
La mère la gifle.
Tu es mineur.
Prend au bras, la mène jusqu'à sa chambre, la pousse dedans et ferme la porte à clé. Constance se jette sur son lit en pleurs.
Elle revoit le visage de Kevin. Durant plusieurs jours, elle est enfermée dans sa chambre. Elle ne peut pas sortir par la fenêtre parce que c'est trop haut. Sa mère lui porte les repas et se retire. Une semaine plus tard, sa mère va la voir. Elle est assise sur une chaise. Sa mère lui dit,
tu vas mieux? J'ai organisé pour toi une promenade que tu feras avec Galien. Vous irez vous promener toute une journée en Savoie.
Je ne veux pas me promener.
Tu iras, c'est un ordre. Autrement, je te mets en pension en Suisse et je dis à la police que ton compagnon a cherché à abuser de toi. Je te jure bien que si tu ne vas pas te promener avec Galien, ce fils de rien restera en prison le reste de ses jours.
Vous êtes ignoble.
Non, je me bats pour survivre.
Même en pétinant votre fille?
Alors, tu acceptes?
Pour sauver Kevin,
oui,
mais pas pour vous.
C'est la mère qui a dit à la mère de Galien que sa fille serait très heureuse de passer l'après-midi avec lui. La mère de Galien lui a dit.
Galien lui dit,
je n'ai pas du tout envie de sortir avec elle.
Je ne pense pas qu'elle...
Mais si, c'est elle-même qui l'a demandé. Allez, tu sors une fois avec elle et c'est fini, si tu ne veux pas. Mais au moins, tu auras démontré que tu as essayé. Fais-le pour moi. Que veux-tu? C'est la fille de ma meilleure amie. Je n'y peux rien.
Bon, je veux bien. Et Galien est allé chercher la jeune fille chez sa mère. Il l'amène au lac de Montrion. Arrivé pour le petit déjeuner, il va dans un petit restaurant hôtel au bord du lac. Tout en mangeant, Galia lui demande : vous n'avez pas parlé durant tout le trajet. Que vous en arrive-t-il ? C'est vous qui avez voulu que nous soyons ensemble ? Elle lui dit : non, c'est ma mère. Ah ? Oui, c'est elle qui a tout arrangé. Et qui veut que nous nous marions. Mais moi, je n'y tiens pas. Ah ? Oui, parce que j'en aime un autre. Elle me fait chanter pour que je me marie avec vous. Je vous dis tout ça parce que vous êtes ma seule chance pour que je puisse vivre ma vie. Il lui dit : je comprends, mais ne craignez rien. Moi aussi, l'on veut me forcer. Sous prétexte que nos deux mères se connaissent, elles veulent nous marier. Mais moi, je n'y tiens pas. C'est pas que vous êtes, que vous ne soyez pas charmante et belle, mais mon corps est ailleurs comme le vôtre. Alors, soyons beaux amis, oublions cette histoire. Je tâcherai de vous aider. Elle sourit. Elle passe la journée gentiment. S'en retourne à Lyon. Il l'a raccompagnée chez ses parents et lui rentre chez les siens.
Il va retrouver sa mère au salon.
Elle est debout. Tout excité. Alors, comment ça s'est passé ?
Il lui dit : très bien, nous sommes quittés bons amis, mais jamais nous nous marierons, parce qu'elle ne m'aime pas.
Le lendemain, la mère de Constance va chez la mère de Galien. Elle la reçoit au salon.
Entrez. Asseyez-vous.
comment ça s'est passé? Parce que ma fille, timide, n'a pas voulu me dire quoi que ce soit. »
Elle lui répond,
« D'après mon fils, votre fille ne veut pas du tout, n'a pas du tout l'intention de se marier avec lui. Je crois que ce qu'il vaudrait mieux, c'est laisser tomber ce projet de mariage. »
Elle lui dit,
« Non, ce n'est pas possible. Votre fils, un si gentil jeune homme, ma fille est folle. D'ailleurs, j'aurais dû m'en douter. Elle n'a jamais aimé personne. »
La mère de Galien lui dit,
« Je comprends, mais n'en parlons plus. » L'autre lui dit, « Si, nous en reparlerons. »
Rentrée chez elle, la mère de Constance va dans la chambre de sa fille.
Elle entre sa frappée. Sa fille est à sa coiffeuse. Elle s'approche d'elle.
Et lui dit,
petite salope, de toute façon, tu n'auras jamais l'autre.
Sa fille lui dit, si je l'aurai.
Et la mère sort de la chambre.
Galien va voir Philippe dans sa chambre.
Une fois la porte fermée, Philippe furieux lui dit, « Tu as passé la journée avec elle, hein? Tu m'avais bien dit que c'était fini. Tu n'es qu'un salaud. »
Galien s'approche de lui. Il veut le toucher. Philippe se dégage.
« Non, laisse-moi. Après t'être amusé avec la fille, tu veux jouer avec moi. Je ne suis pas un ours en peluche. »
Galien lui dit,
« Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis sorti avec elle parce que ma mère me l'a demandé. C'est tout, rien de plus. »
Philippe lui dit, « Vous n'avez rien de plus, comme notre amour, s'il y en a un. Et dire que je te suis resté fidèle parce que je te veux rester fidèle. » Tout d'un coup, la porte s'est ouverte. C'est la mère de Philippe.
J'ai tout compris, j'ai tout entendu. Tu dévergondes mon fils depuis toujours. Je le dirai à ta mère. Tu as dévergondé mon fils en risquant de lui donner le sida. Et tu vas en faire une folle, en le dépravant. Petit dépravé.
Galien lui dit,
« Absolument pas. Je suis triste que vous l'ayez appris comme ça. Mais je ne cherche pas à dépraver votre fils. Lui et moi, nous aimons depuis toujours. C'est trop tard pour vouloir nous séparer. Nous sommes adultes maintenant. »
Elle lui dit,
« Je chercherai mon fils. Et toi, je te tuerai pour que tu ne cherches pas à le revoir. »
Galien lui dit, « Si vous voulez nous empêcher de nous revoir, vous, il vaut mieux me tuer. »
Qu'est-ce que votre fils? Est-ce que votre fils n'est pas digne d'être aimé? Notre amour est aussi pur que le vôtre. »
Elle lui répond,
« Ce que tu appelles amour, cette saleté que vous faites ensemble. »
Galien lui dit, « Mais nous faisons la même chose que vous. Mais vous, bien sûr, en plus, vous avez la bénédiction de tous. Nous, notre amour doit être plus fort, parce que nous sommes obligés de nous cacher. »
Philippe ne dit rien. Il a peur et honte. Il aime ses parents et les respecte. Il n'aime pas les décevoir. Sa mère dit à Galien, « Allez-vous-en !»
Galien part la tête basse. Il croise le père de Philippe qui monte les escaliers. Elle lui demande
« Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Que se passe-t-il ?»
Galien ne dit rien et s'en va. Le père monte dans la chambre de son fils et les retrouve. La porte est restée ouverte. Il demande
« Que se passe-t-il ?»
Elle lui dit « Viens, sortons, je vais te raconter. »
Et ils sortent de la chambre pour aller au salon.
Elle lui dit, « Je viens d'apprendre que ton fils a depuis toujours une liaison dépravée avec son cousin Galien. »
« Qu'est-ce que tu veux dire ?»
Elle hausse ses épaules et lui dit, « Ton fils fait avec Galien ce que font deux hommes qui sont contre nature.
Tu dévagues.
Eh bien, demande-le-lui. »
Le père sort du salon pour aller dans la chambre de son fils. Entrez. Il entre. Mon fils est encore debout. Il va vers lui.
Et lui demande,
est-ce vrai que tu as des rapports particuliers avec ton cousin?
Philippe, la tête basse, lui dit,
oui.
Son père soupire et lui dit
« Je suis triste parce que j'aurais mieux aimé avoir un fils qui ait des goûts comme tout le monde, parce que la vie est plus facile pour les gens qui ont des goûts simples. Mais je suis moins horrifié que ma femme, tu comprends. Puisque telle est la vérité, il vaut mieux ne pas la cacher ou s'auto-punir. On ne vit qu'une fois. Tu es discret, et si tu fais attention. »
Philippe a les larmes aux yeux. Il prend son père dans ses bras et lui dit
« Papa, je sais que tu m'aimes vraiment. Moi aussi je t'aime. »
Ton père lui dit
« Je vais aller voir ta mère pour la calmer. »
Il se dégage et sort de la chambre pour aller retrouver sa femme au salon.
Il lui dit à peu près la même chose et
« C'est notre fils. Il n'a pas changé. Il nous aime toujours autant. On ne peut pas le rejeter parce qu'il est comme ça. Ce n'est pas de sa faute, il est né comme ça. Il nous aime. C'est un brave fils. Ne l'empêchons pas de vivre sa vie et ne le rejetons pas. Ce ne sera pas facile pour lui. Il va être rejeté, humilié. Alors, n'en rajoutons pas plus. »
La femme pleure et lui dit « Je vais jamais... Il n'y a jamais eu une chose comme ça chez nous. Je n'oserai plus jamais regarder mon fils en face. »
Philippe, dans sa chambre, se dit qu'il n'osera plus jamais regarder sa mère. Puis, il pense à Galien. Il a peur qu'il ne veuille plus le revoir. Alors, il va lui téléphoner.
Allô? J'aimerais parler à Galien, s'il vous plaît. Galien Diap. Je suis son cousin. Allô, Galien? Je veux te revoir. Galien lui dit. Moi aussi, je t'aime.
Galien ne dit rien de la scène qui s'est passée chez son oncle. La mère de Philippe ne parle pas de ça à la mère de Galien, mais elle lui fait froid. Un après-midi, alors qu'elles sont au salon des parents de Galien à prendre le thé. La mère de Galien dit
« Mon fils va bientôt peut-être se marier. »
La mère de Philippe la regarde en ricanant. Elle lui dit
« Oh, vous croyez ? Moi, je ne le vois pas marié. »
La mère de Galien pense qu'elle doit être jalouse parce que son fils n'est pas marié. Elle lui dit
« Peut-être que le vôtre le sera bientôt. »
Elle ne dit rien. Ce temps, Constance est toujours enfermée dans sa chambre. Elle pense constamment à Kevin et ne rêve que de le retrouver. Une nuit, elle décide de tenter le tout pour le tout. Alors que la maison est endormie, elle s'habille. Le plus de choses qu'elle peut pour y mettre dans sa poche. Des petits bijoux, un peu de monnaie. Et va ouvrir la fenêtre. La nuit est noire. En bas, c'est jardin. Il y a deux étages. Elle se penche bien et se dit tentons le tout pour le tout. Réfléchis une minute et va à l'armoire. Faut prendre des draps. De bons draps de lin. Bien costaud. Elle les défait. Et les attache les uns aux autres avec des nœuds de marin bien costauds qu'elle a pris en vacances en Bretagne. Une fois que les draps ont été attachés pour faire une longue corde, elle va les attacher à la rambarde de la fenêtre. Elle en rembarde de la fenêtre. Elle les a attachés avec un bon nœud et descend les draps. Elle regarde en bas, à un mètre près, c'est bon. Il ne pleut pas. Ne fait pas de vent, il n'y a pas de bruit, fait noir. Allez vite. Elle se met sur le rebord de la fenêtre. Se retourne et se pend. Elle accorde un drap. pour se maintenir et descendre. En se maintenant fermement avec ses deux mains, sans regarder le bas pour éviter d'avoir le vertige, elle descend le long du mur. Les draps semblent tenir malgré quelques craquements de temps en temps. Elle a chaud, elle a peur. Son corps bat très fort, mais il faut qu'elle le fasse. Elle sent qu'elle arrive au bout de la corde. Elle se penche, regarde en bas, ne voit que du noir. Ses pieds sont dans le vide, à peu près à 1 mètre du sol. Son corps bat très fort. Elle hésite de se lâcher pour tomber. Elle est en sueur. Mon Dieu, aidez-moi. Allez, à la grâce de Dieu. De toute façon, je ne peux plus remonter. 1, 2, 3. Elle ferme les yeux et lâche le drap. Elle se retrouve à terre, sans qu'elle ait eu le temps d'avoir peur. Se relève, n'a rien de cassé. Reprend son souffle. Vite, vite! Elle va ouvrir le portail.
Par miracle, il n'a pas été fermé à clé.
Vite, elle se met à courir. Sort de derrière les buissons du jardin un homme habillé en noir. 40 ans, fort. C'est le domestique. Il lui court en paix, après en se disant, car il a vu dans quelle direction elle allait. La petite garce, elle a le feu au cul. Sa mère a bien raison de l'enfermer. Je vais la suivre pour la ramener à sa mère. Elle ne sait pas qu'elle est suivie. Elle court dans les rues noires et désertes. Elle veut le retrouver et partir avec lui. Elle court dans les rues désertes. Elle a foi. Elle sait qu'elle va le retrouver. Tout d'un coup, elle se souvient où ils se sont vus la première fois. Les amoureux se retrouvent toujours sur le lieu de leur première rencontre. Elle va sur le quai, en direction du quai de la Saône. Elle longe le quai et regarde la berge. Elle ne le trouve pas. Va jusqu'au quai Rimbaud, cet endroit lugubre. Là, elle le voit endormi sur des tas de sacs. Oui, c'est bien lui. Elle descend vers la berge. Va vers lui. Elle est toute essoufflée. Les larmes aux yeux, la gorge serrée, il dort allongé, le visage lumineux et calme. Elle lui dit, Kevin, il se réveille, la voix, Constance, oui c'est moi, il se lève, et tombe dans les bras en pleurs. Elle lui dit, je t'aime, moi aussi. Il la couvre de baisers, en pleurs, presque en crise. Elle lui dit,
nous quitterons plus, n'est-ce pas ?
Il lui dit ému, mais plus calme.
Non, je te le promets.
Tu me garderas près de moi.
Oui, je te le promets. Je suis ta femme. Je t'aime tellement. Si tu savais.
Je la trouve tout excitée. Je veux la calmer par des baisers, des caresses. L'un ne suffit pas. Ils s'échauffent. Leur amour si fort.
Alors,
tout en l'embrassant, en se caressant, il l'amène vers une barque.
La fait descendre.
Elle descend. Une fois qu'elle est descendue, il la couvre de baisers, elle la caresse, elle se laisse faire, lui demande
« Tu veux bien ?»«
Oui, je le veux, je le veux. » Il caresse ses cheveux, lui donne des baisers sur le visage, le corps. Il caresse par-dessus ses vêtements, puis petit à petit, il la déshabille. Elle l'aide. Elle est nue sur la lune, dans la barque. Il est subjugué par sa beauté. Il se déshabille en vitesse et ils font l'amour. Elle accepte, le veut, le désire. Puis, essoufflé, épuisé, heureux, il reste enlacé dans la barque, nu. Regarde.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.